Si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de C'est pas du vent, on la surnomme l'île de beauté et c'est un euphémisme. Avec ses montagnes, ses eaux cristallines et sa biodiversité exceptionnelle, la Corse est un bijou posé en pleine mer Méditerranée, entre la Sardaigne et la métropole française. Un bijou qui, depuis des siècles, a suscité bien des convoitises et a subi l'invasion des Grecs, des Phéniciens, des Carthaginois, de la République de Pise, puis de celle de Gênes, avant de devenir enfin française malgré elle. Ce passé a fait des Corses des gardiens de leur histoire et de leur patrimoine, mais aujourd'hui, l'exode rural et les activités humaines ont rendu cet équilibre fragile et certaines espèces endémiques propres à l'île sont même menacées. Alors, du Cap Corse au nord de l'île jusqu'aux montagnes de la Castaniche à l'est, certains se battent pour la conservation de plusieurs de ces espèces. En Corse, la sauvegarde du patrimoine agricole, c'est un reportage d'Igor Strauss.
Quand la France a perdu ses colonies en Algérie, donc les pieds noirs, ce qu'on appelait les pieds noirs, sont rentrés en France et certains se sont installés dans le sud-est de la France. Beaucoup sont venus en Corse et implanter un nouveau vignoble en Corse tel que celui qu'il pratiquait en Algérie. Donc un vignoble soi-disant moderne, progressiste à l'époque, avec de nouvelles méthodes, des rendements largement supérieurs à ceux qui étaient pratiqués ici de manière traditionnelle. Donc il y a eu un conflit entre la culture nouvelle implantée en Corse et puis la petite culture corse de qualité. Donc cela a créé beaucoup de tensions et patrimoine. Et était l'un des premiers, les syndicats, et un des premiers à s'élever contre les nouvelles méthodes qui étaient implanté en Corse avec l'usage de pesticides intensifs, d'engrais, d'acides divers pour équilibrer le vin puisqu'on faisait une surproduction et plus le sucrage intensif hein, puisque des bateaux entiers arrivaient chargés de tonnes de sucre, ça devenait des choses impensables pour les vignerons en Corse. Donc cela a créé des tensions et ça a débouché bien plus tard sur ce qu'on a appelé le drame d'Aléry en 1975. Des gens qui se sont élevés contre ces méthodes, frauduleuses, hein, qui ont détruit le vignoble corse de qualité. En 1974, il y a eu le scandale des vins corses qui a fait la une des médias nationaux où l'on disait que le vin corse était de l'égal poison corse. Donc ça avait fait la une et ça avait été vraiment une véritable catastrophe pour la viticulture corse. Donc des tensions énormes qui ont débouché sur ce drame d'Aléry qui a vu une cave investie par des militants corses à l'époque. Avec un drame, hein, puisqu'il y a eu des morts à cette époque. Et ça a été un peu la fin de cette aventure, je dirais, de ce vignoble progressiste qui allait, soi-disant, éclairer les agriculteurs corses.
Le 21 août 1975, un commando d'une vingtaine d'hommes armés de fusils de chasse occupe la cave d'un riche rapatrié d'Aléria. A l'époque, les pieds noirs sont accusés de trafiquer le vin et de profiter largement des subventions du Crédit Agricole au détriment des Corses. Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, emploie la manière forte. 1200 hommes et 4 automitrailleuses sont envoyés à Aléria. Le bilan est lourd, 2 gendarmes sont tués et des affrontements éclatent à Bastia. Pour de nombreux observateurs, c'est la naissance du nationalisme corse. Mais revenons en 2017 dans les vignes de Jean-Laurent de Bernardi, producteur de vin biologique.
Là, nous sommes exactement sur la commune de Saint-Florent où se situe mon vignoble. Un vignoble en bord de mer, comme vous pouvez le voir, donc avec beaucoup de facilité pour une certaine culture, le bio par excellence, puisque les embruns marins, la présence du golfe nous préserve de beaucoup de maladies, et donc très peu de traitements, donc c'est un peu béni des yeux, comme la plupart du reste de l'appellation patrimoine qui bénéficie des mêmes conditions en général.
Alors pour décrire, là on est le matin, au milieu du maquis. On entend les cigales, on a les oliviers, les arbousiers, toute cette végétation propre à la Corse. Et puis, une vue sublime sur la baie de Saint-Florent. C'est vraiment un petit paradis ici.
Ben, c'est justement le terme que je voulais employer. Vous l'employez vous-même, donc c'est une évidence. Nous connaissons le paradis avant d'être passé par l'étape de la mort.
Mais alors très concrètement, quels sont les atouts du terroir du Cap Corse ici? Pourquoi est-ce que la vigne a toujours donné ici à Patrimoine et dans la baie de Saint-Florent?
Il y a ici, sur la région du Patrimoine, un terroir particulier. La Corse est granitique dans la partie sud et beaucoup plus schisteuse dans la partie nord. Il y a ici, dans la région de Patrimoine et du Nébe, il y a une émergence calcaire, donc des sols argilo-calcaires tels qu'on les rencontre dans les gros vignobles du monde, dans les plus grands vignobles du monde. Donc un terrain idéal pour de la vigne qui s'est adapté avec des cépages locaux qui se sont particulièrement bien adaptés à ce terroir, ce qui fait qu'une qualité qui a été reconnue et des vins qui ont été reconnus très tôt. Anciennement, il y a une cinquantaine d'années par exemple, toutes les familles de patrimoine possédaient quelques hectares de vignes. C'était 1 hectare, 2 hectares, c'était des petites surfaces. Donc les gens travaillaient de manière très traditionnelle, on cultivait ça comme un jardin. Le bio n'était pas une obligation, mais par tradition, les vignerons de patrimoine se sont toujours plus ou moins tenus à ces méthodes de travail. Depuis, je dirais, une vingtaine d'années maintenant, on a décidé au niveau syndical d'orienter la culture de la vigne en certification bio, puisque cela pouvait amener une certaine notoriété à nos produits, puisque nous le faisions sans le savoir, nous voulions le faire en le faisant savoir. Donc, en une vingtaine d'années, on est passé d'un producteur bio à patrimoine à aujourd'hui, sur les 40 vignerons, il y en a plus d'une vingtaine qui sont aujourd'hui certifiés bio et d'autres qui sont en conversion. Et je ne doute pas que d'ici 3, 4 ans, 5 ans maximum, la totalité des vignobles de patrimoine sera cultivée en culture biologique.
On sait qu'en Corse en général, hein, pas uniquement au Cap Corse, il y a des espèces endémiques qui sont vraiment propres à la Corse, qu'on parle d'agriculture, d'élevage, d'apiculture. Est-ce que vous avez craint un moment pour la vigne de perdre cette spécificité corse en raison justement de cette nouvelle culture prônée par les anciens d'Algérie?
Oui, bien entendu, mais la lutte elle s'est faite aussi là-dessus, sur la préservation justement des cépages locaux, puisqu'on nous avait proposé à l'époque des cépages beaucoup plus producteurs, beaucoup plus rentables. C'était un peu le miroir aux alouettes, et puis certains s'y sont laissés prendre, donc ça n'a pas été facile. Mais des vignerons se sont élevés et ont donné un peu l'exemple. Et puis, les résultats ont fait qu'aujourd'hui, c'est cette culture, cette agriculture qui a gagné en Corse, en tout cas. Nous avons fait classer le site de la Concadore et le vignoble de patrimoine en site national, avec des cépages locaux, avec des produits singuliers qui ressemblent aux hommes qui les cultivent.
Et justement, ça, c'est important de préserver cette singularité, cette particularité corse.
Et c'est plus qu'important que tout, puisque à quoi bon que tout le monde se ressemble et que toute chose soit similaire? On tomberait dans la monotonie. Je dis, la richesse, c'est la diversité. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient en Corse, je pense qu'il est heureux de rencontrer quelque chose qu'il n'a pas chez lui. Et nous serions heureux, nous-mêmes, de visiter des pays qui nous étonnent ou qui nous interpellent. C'est ce que nous essayons de préserver ici en conservant notre identité et notre côté sauvage, sans oublier d'être accueillant.
Aujourd'hui, le vignoble de patrimoine s'étend sur quelques 500 hectares, dont les trois quarts en bio. En 2017, le vignoble a même obtenu le label Grand Site de France pour le protéger des constructions. Sur cette terre de vin, Sandrine Marfisi est une exception. Elle s'est lancée dans la production d'huile d'olive en restaurant des oliviers séculaires. On la retrouve sur une parcelle somptueuse au bord de l'eau, dans la baie de Saint-Florent.
Nous, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment valoriser ces terres, ne pas partir dans une agriculture intensive, remettre en culture en préservant les lieux. Donc, en fait, tout ce qui avait brûlé, qu'on a démaquisé, qui a réussi à renaître du feu, c'est la magie de l'olivier, ça renaît sauvage. Mais on l'a conservé et on a greffé, on a fait un gros travail de greffe avec des variétés exclusivement locales. J'utilise pas de désherbant pour préserver la nappe phréatique et la proximité du bord de mer fait que je fais bien attention. Voilà, il y a des pratiques et des méthodes qui sont adaptées à la préservation de ce qu'on a en face de nous, qui est avant tout ce qu'on désire préserver. Après, on en tire un bénéfice et les fruits de l'olivier nous permettent économiquement d'en vivre. Mais c'est vraiment la base du projet, la sauvegarde du patrimoine.
Quelles sont aujourd'hui les contraintes et les dangers qui menacent les oliveraies ?
Alors, en introduction, je voudrais dire aussi que c'est une filière splendide et qui a tout pour réussir. Après, c'est vrai que c'est comme tout, on a des menaces autour de nous et qui se rapprochent de plus en plus, qui sont d'ordre climatique, parce que c'est vrai qu'on essuie des sécheresses récurrentes et on est certainement dans une phase transitoire au niveau du climat et donc de notre culture. Et puis aujourd'hui, on est très inquiets, nous, oléiculteurs, par l'exemple de ce qui s'est produit dans les Pouilles sur les oliviers au sud de l'Italie, où une bactérie, malheureusement contre laquelle il n'y a aucun remède aujourd'hui, a décimé les oliviers italiens. On a trouvé cette bactérie aussi en Corse, sous une forme un peu différente, mais malheureusement, je pense tout aussi dangereuse pour nos différentes variétés d'oliviers et pour aussi d'autres filières agricoles, notre maquis, parce que ça attaque aussi les plantes sauvages. Et l'histoire de la bactérie, je pense que c'est un énorme enjeu du bassin méditerranéen dans son ensemble, malheureusement. Aujourd'hui, c'est nous. Récemment, il y a 6 mois, c'est les Baléares qui ont été touchés. Je pense qu'on va en trouver un peu partout et nous, notre objectif, c'est de tirer profit de notre, pour une fois, de notre caractère insulaire et d'essayer de protéger l'île au maximum. En tout cas, c'est sa biodiversité qui est en danger, c'est très clair.
Alors, quelles sont les mesures de prévention très concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez faire?
À très court terme et de manière très pragmatique, on peut stopper l'importation de végétaux et limiter les risques d'introduction. Ça, c'est ce qu'on réclame, mais on n'est malheureusement pas tellement soutenu ni entendu. Et puis après, je dirais, à moyen terme, c'est produire nous-mêmes nos plantes. Mais on est capable de le faire. Je pense qu'en Corse, on a vraiment des ressources impressionnantes et on peut produire. Ces plantes-là, on ne les produit plus parce qu'aujourd'hui, la concurrence fait que ce n'est pas économiquement viable. Mais si demain, les Corses achètent leurs plantes en Corse, fabriquées par des Corses, c'est tout à fait envisageable.
Et dans toutes ces démarches donc, de prévention, de sauvegarde du territoire et de sa mise en valeur, de relance d'une culture qui avait été négligée, est-ce que vous bénéficiez d'aide et de soutien de la Corse et de l'Union européenne via la PAC, la politique agricole commune ?
Oui, alors après la filière oléicole, au même titre que les autres filières, on a effectivement via l'Office du développement rural de la Corse un certain nombre d'aides à l'investissement, un certain nombre d'aides à l'installation qui sont valables pour toutes les filières. La filière oléicole a fait des choix pour plutôt allouer le maximum d'aide à des gens qui rénovent du patrimoine oléicole existant. C'est-à-dire qu'on a la chance sur cette île d'avoir des oliviers multiséculaires qui n'ont jamais connu le gel, contrairement à d'autres régions du continent, qu'ils soient italiens, français ou espagnols. Et ce verger quasi patrimonial, on l'aide au maximum parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est souvent peu mécanisable, souvent en coteaux, sur des arbres de grande envergure, difficile à cultiver. Alors après, avec la déprise agricole, l'exode rural, on a effectivement des parcelles entières qui sont retournées au maquis. Nous, l'enjeu, c'est effectivement de les sortir du maquis. D'abord, ça protège ces vieux oliviers du feu. Et puis ensuite, on l'a démontré par des études économiques récentes, c'est viable et ça permet de faire vivre des familles. Et dans des endroits où, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Hein, voilà. Mais ça parle aux Corses, parce qu'en fait, en général, ce sont des gens qui ont hérité de parcelles de leur famille et qui, un jour ou l'autre, se posent et se disent « Mais pourquoi je ne les remets pas en production ?» Et la magie de l'olivier, c'est que vous pouvez les laisser des dizaines d'années sans vous occuper d'eux. Ça nécessite 2-3 ans de boulot et vous retrouvez l'olivier productif, vous retrouvez la possibilité de faire de l'huile d'olive comme dans le temps, voilà, avec des techniques plus modernes. Moi, je trouve que c'est fabuleux. On ne plante pas un olivier comme on plante un arbre fruitier. Les oliviers, c'est, pour nous, ce sont des monuments vraiment et c'est pour ça qu'on parle de patrimoine.
Grâce à Sandrine Marfisi et aux quelques 400 oléiculteurs de Corse, professionnels ou amateurs, la culture de l'olivier, qui avait été abandonnée jusque dans les années 90, reprend peu à peu sur l'île de Beauté. Chaque année, une dizaine de jeunes s'installent dans la production d'olivier.
Il y en a des ruches, hein.
Et là, il n'y a rien. Voilà, vous êtes dans le local de la mielle Via Fontromandie avec l'espace qui est réservé à l'extraction du miel. Hein, donc les housses de miel rentrent par là. Là, il y a une machine à les operculer.
Ça sent bon le miel et la cire d'ailleurs dans cette salle.
Oui, et là, l'espace mis en pot, là, vous voyez, j'ai mis en pot du miel que j'appelais le miel des agriates. Bien que je sois dans l'appellation, dans l'AOP miel de Corse, où on a 6 appellations, je me suis fait un petit plaisir pour rendre hommage à cette zone des agriates qui me tient très, très à cœur. Hein. Il est beaucoup marqué par la lavande papillon, la sphodèle. Donc c'est un miel de printemps très doux. Voilà.
Alors, on va commencer par le commencement. Je vais vous laisser vous présenter.
Pierre Carly, je fais du miel depuis une douzaine d'années à Patrimonio.
Est-ce qu'on peut parler d'espèces d'abeilles endémiques à la Corse?
Alors, on a effectivement un écotype local de l'abeille noire. On a d'ailleurs un conservatoire de l'abeille corse. Donc c'est une abeille noire européenne, mais avec des spécificités qui ont été identifiées d'une part par des index morphologiques, et également on a fait des analyses ADN pour confirmer ces recherches. Donc effectivement, on a un écotype local de l'abeille noire. Mais on a eu, malheureusement, à certaines époques, une pollution génétique. Il y a toujours eu beaucoup de malaria en Corse. Et lorsqu'on a voulu éradiquer la malaria, notamment avec la présence des Américains à la Seconde Guerre mondiale, des tonnes et des tonnes de DDT ont été balancées sur ces zones-là.
Donc le DDT est un puissant
poison violent. Il y a eu des mortalités d'abeilles considérables. Et suite à ça, il y a eu une forte importation d'abeilles italiennes, la Ligustica. Et donc, c'est un caractère récessif qu'on peut encore retrouver chez nos abeilles corses. Parfois, sur certaines colonies, on voit sur nos dominantes d'abeilles noires, on peut voir parfois apparaître des bandes jaunes qui sont une pollution génétique.
Mais est-ce que vous êtes dans une volonté justement de repeupler la Corse d'abeilles spécifiquement corse, ou vous êtes pour la mixité des abeilles? Je ne sais pas comment l'exprimer correctement.
Alors,
mais...
nous, si vous voulez, c'est une question qui est très importante. Elle peut nous renvoyer à différentes problématiques. Donc la toute première... Moi, je défendrais personnellement la vision selon laquelle, depuis des millions d'années que les abeilles sont sur Terre, effectivement, il y a pu avoir des adaptations locales. Et ce n'est pas inintéressant d'imaginer que notre abeille corse a des spécificités qui lui permettent de profiter de la climatologie spécifique de l'île, avec cet étalage de floraison qui vont se retrouver à différents types de biotopes tout au long de la saison apicole. Donc on a vraiment un écotype local sur lequel il faut qu'on travaille. Mais au-delà de ça, je pense que nous sommes dans une île, ça a souvent été un handicap. Et en l'occurrence, je pense que par rapport aux espèces animales, ça peut être un atout. Parce qu'on voit, cela défraie la chronique au quotidien, hein, les espèces invasives qui sont véhiculées dans le monde entier, qui ont un impact sur les biotopes, sur les équilibres écologiques de différentes zones. Et donc, notre abeille corse nous convient très bien, on travaille très bien avec elle. Pourquoi aller chercher des abeilles qui peuvent être véhicules de virus, de maladies, de parasites? Ça a été le cas avec le varroa qui est présent dans l'île.
Donc expliquez-nous le varroa.
Alors le varroa, c'est un acarien dont l'origine est en Asie, qui s'est véhiculé petit à petit dans le monde entier. Et alors c'est un acarien qui vampirise les abeilles, qui suce l'hémolymphe de l'abeille, le sang de l'abeille, et la rend plus vulnérable à des virus que l'on trouve dans la ruche. Voilà.
Alors justement, vous, en tant qu'apiculteur, est-ce que vous avez l'impression, en préférant travailler avec les abeilles noires de Corse, spécifiques à la Corse, de finalement sauver ou remettre au goût du jour un patrimoine qui avait tendance à disparaître?
Oui.
Ou est-ce que vous êtes dans une logique de sauvegarde? Comment vous vous qualifieriez?
Je pense que tout est imbriqué. C'est une logique de sauvegarde, puisque c'est vrai que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'abeilles sauvages, puisque la présence du varroa a décimé les essaims naturels. Donc, nous travaillons avec de l'abeille noire et nous souhaitons conserver notre abeille parce que nous pensons qu'elle est adaptée à notre région, à notre micro-région. On arrive à valoriser un produit et à créer une activité économique qui permet de préserver l'abeille. Parce que si vous voulez, c'est bien imbriqué. Pourquoi moi j'ai des abeilles? Parce qu'elles me font vivre. Mon activité professionnelle qui est rentable économiquement me permet de préserver les abeilles. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a des apiculteurs qui préservent les abeilles parce qu'il y a un intérêt économique, mais il y a des centaines d'insectes, d'hyménoptères, qui avaient un rôle de pollinisateur et qui ont disparu. On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que personne n'y a un intérêt économique. Mais la biodiversité, c'est un souci permanent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ensemble d'espèces qui disparaissent de par l'action de l'homme et dont personne ne se soucie. Et malheureusement, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a des abeilles encore, c'est parce qu'il y a des apiculteurs qui gagnent leur vie avec. Demain, si l'apiculture n'est plus rentable, il n'y aura plus d'apiculteurs et les abeilles disparaîtront.
Aujourd'hui, la Corse compte une centaine d'apiculteurs pour protéger les abeilles noires de l'île. 15 d'entre eux sont des professionnels qui produisent 80% des 300 tonnes de miel produits chaque année en Corse. Quitte la région du Nebbio à l'entrée du Cap Corse pour la Castanice, une région montagneuse entre Bastia et Corte. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, la Castanice était la région rurale la plus peuplée d'Europe avec 110 habitants au kilomètre carré. Aujourd'hui, c'est un désert, il ne reste plus que 3 habitants au kilomètre carré. Parmi eux, la famille Vincenzini qui vit à San Lorenzo et perpétue une vieille tradition, la culture de la châtaigne et la production de charcuterie biologique.
Je suis Jean-Paul Vincenzini, j'ai 73 ans et je suis paysan dans la montagne corse. Dans mes activités, il y a le châtaignier et le porc. Ils vont ensemble puisque le porc est un animal qui valorise assez bien la châtaigne. La châtaigne qu'on ne ramassait pas à l'époque, à une certaine époque, parce que nous sommes dans la castagnicha, ça veut dire la châtaigneraie. Donc il y a des milliers de châtaigniers qui, avec le temps, étaient retournés à l'abandon, faute de bras pour les entretenir et pour les récolter. Et donc le porc était un bon moyen de valoriser cette châtaigne qui était perdue, quoi qu'il en soit. Et là, on doit ajouter quelque chose. C'est que Pascal Paoli a été le héros de la Corse, mais il a aussi été l'instrument de la désaffection des Corses pour le châtaignier, puisqu'il est contemporain de Parmentier, et il a introduit la pomme de terre en Corse. Vous savez que le châtaignier, on l'appelle l'arbre à pain. Le châtaignier était en concurrence avec la pomme de terre et n'était plus au centre de l'alimentation des populations de la Castagniccia. Ce qui fait qu'il y a eu un désintérêt. Et ce désintérêt a commencé à cette époque aussi. Le châtaignier, pour vivre, a besoin de monde. Il faut l'entretenir, le tailler. Donc, faute de bras, il a été progressivement laissé à l'abandon. Il n'était plus au centre des intérêts économiques de la région. Moi, avec mes fils, nous avons restauré à peu près 300 hectares de châtaigniers. Quant à l'élevage du porc, le porc a toujours été complémentaire de la castagniculture, pour utiliser un mot savant, puisque, après le ramassage des châtaignes, il y avait une tradition, tout au moins, qui consistait à laisser la châtaigneraie en libre parcours pour les porcs, qui, non seulement mangeaient les quelques châtaignes qui restaient, mais il n'en restait pas beaucoup, parce que les gens ramassaient vraiment au maximum. Mais surtout, ils mangeaient les vers, parce que la châtaigne est parasitée comme tous les fruits, et ces vers, qui sont le carpocarps et le balanin, ont un cycle de vie un peu particulier, c'est-à-dire ils tombent de l'arbre, ils tombent du fruit, et ils s'enterrent. Le porc avait aussi cet intérêt, c'est qu'il est friand de ses vers et il les mangeait. Et il jouait ce rôle aussi d'insecticide. Et à partir du moment où la population de porcs a diminué, les insectes ont proliféré. Le châtaignier, qui était un arbre indestructible, je connais plein d'épisodes où on vante la force du châtaignier. Depuis quelque temps, depuis une trentaine d'années, il est devenu d'une fragilité de, comme je voulais dire, de jeune fille.
Quel que soit le domaine, sauvegarder un terroir, c'est sauvegarder une culture et une identité, comme le rappelle Jean-Laurent de Bernardi, vigneron à patrimoine.
Avoir un terroir est une chose, le préserver en est une autre. La préservation du terroir, elle passe par des méthodes culturelles. Si vous utilisez des pesticides, des insecticides, des désherbants à outrance, vous tuez le sol. L'expression du terroir est morte. Et quand on parle d'expression du terroir, c'est parce que le terroir vit. Et pour que le terroir vive, il faut non seulement le laisser vivre, le préserver, mais aussi il faut l'encourager par des méthodes qui lui sont favorables. Et c'est ce que nous pratiquons ici, que nous voulons pratiquer ici, que nous avons toujours pratiqué de cette façon. C'est tout cet ensemble d'actions qui préserve justement les identités, aussi bien culturelles que les identités, je dirais, agricoles.
En Corse, la sauvegarde du patrimoine agricole, c'était un reportage d'Igor Strauss réalisé par François Porcheron. Demain, dans C'est pas du vent, nous parlerons de la désertification à l'occasion d'un sommet sur le sujet à Strasbourg. Comment lutter contre la dégradation des terres qui a lieu partout sur notre planète et sévit particulièrement sur le continent africain. À demain, même planète, même heure.